Vous êtes sur Bac FM, il est 19h, bonne soirée sur le 106.1, votre rendez-vous job, on est parti, jingle. Et c'est une nouvelle série d'émissions que je vous propose à partir d'aujourd'hui, portrait d'artisans, lumière sur ces hommes et femmes qui mettent leur savoir-faire au service de tous, et aujourd'hui, pour cette première émission, projecteur sur un métier de bouche. Bonjour Eric, bonjour Eddy.
Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes boucher, charcutier, traiteur, et Eric, vous êtes récemment restaurateur, bientôt un an, si je ne me trompe pas, c'est ça ?
C'est ça.
Vous êtes installé en avril 2022, enfin vous avez agrandi votre magasin en avril 2022.
C'est ça, le 8 avril 2022, ça fera un an.
Vous êtes donc à Nevers, au 13e de ligne, si on veut indiquer à nos auditeurs. Et vous, Eddy, vous êtes à Moulins-en-Gilbert.
C'est ça.
On reviendra justement tout à l'heure à la fois sur les différences que ça engendre sur votre activité, mais aussi sur votre manière de travailler, cette différence géographique entre Moulins-en-Gilbert qui est un petit village, on peut le dire, et Nevers qui est une moyenne ville. On peut la définir, je pense, comme moyenne ville.
Oui, c'est ça, ville médiane.
On parlera aussi du métier en lui-même, de la production à la vente, à la commercialisation, la transmission aussi via l'apprentissage par exemple, pour informer les jeunes qui nous écoutent. Et puis, un sujet aussi qui fait beaucoup parler en ce moment dans le milieu artisanal, commercial, c'est la crise, et plus particulièrement les hausses de l'énergie, comment cela impacte votre entreprise. Avant tout ça, on va ouvrir le premier chapitre de notre entretien, qui va vous faire remonter un petit peu en arrière, on va partir sur votre formation. Comment elle a débuté pour vous cette carrière dans ce métier de bouche qui est la charcuterie, la boucherie ?
J'ai appris mon métier dans le Morvan, chez le père Eddy, pour le coup, on est toujours en famille. Donc
c'est une fibre familiale.
C'est ça, tout à fait. Donc j'ai commencé mon métier à 16 ans par un CAP boucher, puis un CAP charcutier. Et puis après, j'ai intégré la grande distribution pendant quelques années.
Vous avez une expérience dans la grande distribution, dans les grandes surfaces?
Oui, j'ai travaillé 20 ans en grande distribution pour toutes les enseignes nationales, Leclerc, Inter, Carrefour, Auchan. Voilà, j'ai fini mes dernières années en grande distribution comme directeur chez Carrefour. Et puis donc voilà, c'est un milieu que je connais bien, mais mon cœur de métier, c'est l'artisanat, c'est la boucherie. Et pour le coup, je suis revenu à mes amours.
À mes premiers amours. Ouais.
C'est ça, puisque je me suis réinstallé en 2011 pour reprendre l'activité de monsieur et madame Klein qui partait à la retraite. Voilà, ça fait 13 ans.
On reviendra justement dessus sur cette volonté de s'installer aussi, de se lancer un petit peu dans le grand bain, de se mettre à son compte, qui peut sortir aussi de cette routine que vous aviez peut-être de salarié dans la grande distribution. Le CAP, Eddy, c'est pareil, même formation ?
Même formation, boucherie, charcuterie, traiteur, avec mon père, donc à Blim et à Moulins-en-Gilbert. Et puis après, la reprise de l'établissement de mes parents. Voilà, il y a 15 ans.
En quelle année vous êtes installé, vous ? 2011 pour Eric ?
2009,
oui. 2008
2009. Eric répond ouais, pour lui et pour Eddy.
Ah, cette famille, ça sort pas.
2009-2011, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Depuis, c'était plus simple de s'installer avant que maintenant pour un jeune qui peut-être demain souhaite s'installer ou dans les années à venir ?
Je sais pas si c'est plus simple, mais voilà, faut avoir envie, de la volonté, et puis après... Je ne sais pas s'il y a les années précédentes, c'était plus simple. Si demain, ce sera plus dur. Non, c'est simplement une envie déjà. Déjà une envie, puis après, voilà, ça roule.
Il y a un coût financier aussi qui est peut-être plus compliqué qu'avant.
Non, je ne pense pas. Je n'ai pas l'impression. Non, pas plus qu'avant, pas moins que demain. Il y a toujours le même problème d'avoir un petit peu d'argent, d'en trouver auprès des banques, de démarcher les banques, mais je pense que de tout temps, ça a été un problème. Maintenant, les banques font peut-être moins confiance à des commerçants artisans, voilà, c'est toujours difficile.
C'est une des appréhensions que vous aviez, vous, quand vous vous êtes lancé ?
Non, parce que j'avais... le soutien de mes parents, puisqu'ils étaient déjà commerçants, C'était une continuité, donc voilà, on n'avait pas la même appréhension que de se lancer, de reprendre un commerce qu'on ne connaît pas.
Et le commerce que vous connaissiez depuis plus jeune, depuis vraiment voilà. votre tendre enfance,
oui, si je peux me permettre. Oui, je suis tombé dedans quand j'étais petit.
Vous, Eric, c'est un petit peu différent, vous avez connu un autre univers avant de vous lancer dans votre propre commerce. Quelle appréhension vous aviez justement le jour de l'ouverture et même avant, en 2011 ?
Alors moi, pour continuer sur ce que disait Eddy, la première chose, c'est que notre métier, c'est un métier de passion. Si on fait ce métier dans l'objectif de se dire on va devenir riche ou on va faire je ne sais quoi, c'est vraiment pas l'objectif. Le premier objectif, c'est la passion qu'on a dans notre métier. Voilà, ça c'est notre objectif du quotidien. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui on existe et qu'on fonctionne. C'est parce qu'on est aujourd'hui passionné par ce qu'on fait, qu'on aime ce qu'on fait, qu'on aime les gens. C'est-à-dire, quand on fait du commerce, c'est la première des règles. Elle est assez simple, c'est d'aimer les gens. Si j'aime pas les gens, faut pas faire de commerce.
Ce rapport à la clientèle, c'est finalement le plus important.
Exactement.
C'est peut-être d'autant plus important quand on vient d'un petit village avec des gens qu'on revoit peut-être tous les jours, mais c'est aussi important dans une ville comme Nevers. Mais vous avez un rapport à la clientèle qui est peut-être différent. On pourra revenir
absolument pas. Mais pour dire, moi, mon objectif premier quand j'ai repris le commerce de Monsieur Madame Klein qui partait en retraite était relativement simple. C'était celui de dire l'objectif premier, c'est d'essayer de pas perdre la clientèle qu'ils avaient acquis.
Est-ce que c'est l'enjeu le plus compliqué, ça, c'est de faire garder cette confiance à la clientèle qui était déjà présente avec les anciens propriétaires?
Non, c'est la difficulté qu'on identifie, qui est pas forcément celle de nos clients, mais celle qu'on, enfin, en tout cas, moi, c'est celle que j'avais identifiée au départ comme une difficulté. Puis au fur et à mesure que je me suis installé, que le temps a passé, que les clients étaient contents de ce qu'on pouvait leur amener, ben on a avancé et l'inquiétude s'est dissipée. On est toujours inquiet au quotidien de savoir comment on va mettre en avant notre entreprise, comment on va mettre en avant notre métier, voilà. Mais c'était pas l'inquiétude forcément du départ. Le départ, c'était de dire, est-ce que je vais être capable de garder les clients qu'ils ont mis 20 ans, 25 ans à créer. Voilà, c'était la première de mes questions. Elle était relativement simple.
Justement, on va rester sur cette clientèle, sur ce rapport à la clientèle. Est-ce que la demande a changé aussi depuis votre installation 2009-2011? On est sur quand même une fourchette d'années qui est relativement la même. Est-ce que maintenant, 2023, vous avez vu une certaine évolution sur la demande? Il y a beaucoup de choses qui sont rentrées en jeu aussi. Il y a la manifestation de tous les véganes, on en a beaucoup entendu parler. Et puis il y a le bio aussi, il y a eu un vrai élan sur la consommation bio. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti dans vos commerces respectifs? Et comment vous êtes peut-être adapté à ça si vous aviez besoin de le faire?
La clientèle change, oui, un petit peu. Enfin, les gens changent. La clientèle se rajeunit. C'est les tranches d'âge qui changent, quoi. Voilà. Et du fait, les gens mangent différemment. Nous, à la campagne, on était plus traditionnels. On vendait beaucoup de viande. On s'est tourné vers des plats cuisinés.
Alors justement, je vous coupe parce que c'est intéressant ce que vous dites, Eddy. Il y a ce rapport aussi à l'alimentation de la viande qui a changé. Il y a une baisse de consommation sur la viande en France, c'est un fait. Mais il y a aussi une augmentation des plats tout faits. Est-ce que c'est quelque chose que vous faisiez moins avant et que maintenant vous augmentez dans votre production personnelle, dans votre établissement?
Avant, on vendait de la viande crue. Maintenant, on la vend préparée. On la vend sous une autre forme. On en vend peut-être pas moins, mais on en vend différemment.
Vous rejoignez ce que
oui,
dit
Eddy? Oui, oui. Alors, j'aurais quand même rebondir sur quelque chose. La baisse de consommation de viande a beaucoup baissé depuis quelques années. Elle s'est stabilisée aujourd'hui, même si elle continue à baisser dans sa moyenne nationale. Mmh. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la moyenne de consommation dans l'artisanat n'a pas baissé. Aujourd'hui, elle s'est stabilisée, voire elle a augmenté ces dernières années, principalement là encore depuis le Covid. On a une augmentation, c'est-à-dire on a un travail différent de la viande aujourd'hui, où effectivement on a une vente de plats cuisinés, mais pas que, aussi de bases de viande travaillées. Aujourd'hui, des préparations de viande, des paupiètes de veau, des burgers, des marinades de bœuf, des rôtis préparés, châtaigne, morvan, ce que vous voulez. On a un tas de préparations aujourd'hui bouchères qui n'existaient pas voilà 30 ans, qui sont aujourd'hui des produits incontournables de notre métier, ce qui fait que ça nous a permis aujourd'hui d'avoir une baisse de consommation qui s'est stabilisée et voire qui a augmenté, je dis bien, pour l'artisanat. Aujourd'hui, la moyenne nationale aujourd'hui de consommation de viande a baissé, mais pas dans l'artisanat ces dernières années.
Et dans le commerce de viande ou d'ailleurs, il faut quand même tout le temps se réinventer, il faut proposer toujours des choses différentes. On est tout le temps dans la recherche de produits, tout en conservant l'aspect traditionnel, parce que on a quand même, peut-être surtout à la campagne, encore une clientèle âgée qui veut retrouver la viande à l'état pur, quoi, oui. Et la cuisiner. Et on a en même temps des gens demandeurs de produits nouveaux élaborés différemment.
Justement, vous parliez tout à l'heure, Eddy, de tranches d'âge. Est-ce que vous avez une moyenne d'âge de votre clientèle dans un village comme Moulins-Gilbert?
Ah ben, je pense qu'on est à au moins 60 ans.
Est-ce que ça vous inquiète dans la poursuite de votre carrière et dans l'évolution de votre commerce?
Oui, quand même, quelque part, quand on voit la clientèle vieillissante et avoir du mal à rattraper une clientèle plus jeune qui existe, mais qui n'a pas l'habitude de venir faire ses courses dans des commerces comme nous, enfin traditionnels, n'a du mal à les accrocher, quoi. Donc le travail, il est là. Le travail, il est là. Allez les chercher pour les habituer à revenir chez nous.
Comment on va chercher les jeunes consommateurs?
Eh ben, on leur propose justement des préparations bouchères, on leur propose des promotions, on leur fait goûter les produits, et puis ben, c'est déjà pas mal.
La communication, c'est peut-être quelque chose qui est moins présent dans une boucherie comme la vôtre que pour vous. Eric, vous avez un site internet, carrément. La communication, c'est très important aussi pour faire venir les jeunes dans votre commerce.
Voilà, nous, on essaie, on touche une clientèle plus jeune. Alors,
votre moyenne d'âge à vous?
La moyenne d'âge à moi, c'est autour de 50 ans. On va dire, on a des jeunes aujourd'hui, on a une clientèle jeune qui est revenue depuis qu'on a mis en place le site internet, le resto, mais principalement le site internet, où on acquiert de la visibilité, on acquiert aujourd'hui la possibilité qu'ont les gens de faire des essais pour savoir sur lesquels prix on vend. Donc ça nous permet d'avoir une visibilité vis-à-vis des jeunes. On bénéficie aussi de l'expérience de leurs parents et de leurs grands-parents qui leur ont appris à manger. Donc pour le coup, on est toujours dans le manger mieux, mais manger moins, donc et manger bon pour le coup. Voilà, donc type, c'est le cheval de bataille de l'artisanat. Nous, on veut pas vendre plus, on veut vendre mieux et meilleur.
Quel rapport vous avez avec ce manger moins, mais manger mieux, justement?
Ah ben c'est le cœur de notre métier aujourd'hui. Si les bouchers aujourd'hui travaillent des bêtes à l'élevage, font attention à la qualité de la viande qu'ils vendent, c'est effectivement entre guillemets plus cher. Tout à considérer que on ne mette pas en avant que le prix, parce que le prix c'est une chose, la qualité c'en est une autre. Donc nous, notre cheval de bataille c'est ça, c'est avoir des viandes de meilleure qualité, les travailler comme il se doit, de façon à les mettre en avant et permettre à nos clients de bénéficier de nos connaissances.
Est-ce que manger mieux, c'est manger bio?
Non.
Non. Absolument.
Fin de la conversation.
Non, il n'y a pas de fin de conversation. C'est un vaste sujet. Aujourd'hui, je pense que c'est pas nous. On va répondre parce que tu nous poses la question. Mais la question, elle est relativement simple. Aujourd'hui, le bio est en train de
ralentir un petit peu.
Il va pas bien. Il va pas super bien. On va pas se faire des amis, mais c'est pas très grave pour le coup. Le bio va pas très bien puisque aujourd'hui, il y a quand même des magasins bio qui sont dans le rouge. Hein. Faut le savoir. Aujourd'hui, voilà, c'est la difficulté du bio. C'est jusqu'où on met le curseur du prix. Et est-ce que le bio, c'est une gage de qualité plus importante que le label rouge ou que la mise en avant de la qualité du produit qu'on vend en artisanat aujourd'hui au quotidien?
Vous avez eu dans votre commerce à Nevers des demandes sur du bio ou pas?
On en a très peu. On en a principalement pour la volaille, mais pour le bœuf, le veau et l'agneau, moi j'en ai pas.
Moi non plus, j'en ai pas. Et surtout, est-ce que...
Si quelqu'un vient vous voir à Moulins-Gilbert et vous demande quelque chose en rapport avec le bio, qu'est-ce que vous lui répondez? Vous lui apportez votre avis carrément sur la question?
Je lui apporte mon avis que la viande en France, elle est déjà quand même surveillée
et qualitative.
Oui, elle est, je dirais presque naturellement bio. Après,
surtout par chez nous dans notre région, qu'elle m'envoie, voilà, la Nièvre.
Après, bio, qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'où on va pour dire c'est bio ou pas? Parce que théoriquement, on devrait prendre le produit fini, alors que là, c'est une mise en œuvre pour avoir un produit fini. Mais quand il pleut, tout se mélange. Les animaux, ils sont dehors, voilà. Ils mangent l'herbe, voilà, théoriquement c'est bio, mais voilà, jusqu'où?
La qualité, elle passe surtout donc par le travail avec les éleveurs, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Eric.
Oui.
Je pense que ça intéresse beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent aussi, votre rapport avec avec les éleveurs. Je sais que vous faites partie aussi, vous, d'un organisme qui travaille en très très proche avec les éleveurs, si je me trompe pas.
Alors moi, j'achète mes bêtes au pré. Donc, je sélectionne mes bêtes en partenariat avec mes éleveurs.
Alors, pour être concret, comment ça se passe? Vous allez dans les prés, vous allez voir les bêtes et vous choisissez en direct.
Voilà, on travaille.
Vous mettez un tampon Éric Dulas sur les fesses de
l'éleveur. Oui. on travaille avec des éleveurs avec qui on a confiance, premièrement. On met en avant un certain nombre de critères, c'est-à-dire ce que la grande distribution ou l'industrie appelle le cahier des charges. Nous, notre objectif, c'est des bêtes élevées à l'herbe, qui sont sans OGM, qui ne sont pas nourries à l'ensilage, même si c'est de plus en plus compliqué, et à l'enrubanage. Voilà. Donc on travaille sur l'alimentation. Le bien-être animal, pour nous, il est évident, puisque une bête bien traitée va être meilleure. Mmh. Elle va être plus tendre, elle va être plus calme. Donc pour nous, on n'a aucun intérêt d'avoir des bêtes qui sont maltraitées, loin de là. Et puis on travaille avec des élevages de petites
petites structures
qui nous permettent d'avoir des bêtes de très bonne qualité
et ne pas frôler l'élevage intensif.
Absolument pas, jamais. On n'achète pas de bêtes à l'élevage intensif et on a la chance d'être dans une région de production avec des éleveurs qui savent travailler, qui sont reconnus et comme nous, ils mettent en avant leur métier, leur passion. Et pour nous, c'est très important.
Exprimer son savoir-faire, ça passe aussi par le travail en commun avec d'autres personnes qui ont un très bon savoir-faire. Eddy, vous partagez évidemment, je pense, les paroles d'Eric.
Oui. Quand on va chez un éleveur, déjà, il nous a appelé parce qu'il a sélectionné un animal pensant nous plaire.
Ouais.
Donc on va chez lui, on le connaît déjà, l'animal, après on le regarde, bien sûr, s'il nous convient. Et puis... on sait à l'avance que l'animal nous conviendra parce qu'il l'aura élevé pour nous. Voilà, c'est une confiance.
Un échange.
Voilà.
On va faire une pause musicale et on va revenir juste après pour continuer d'explorer votre profession. On reviendra sur cette crise énergétique qui touche de nombreux commerçants et puis la transmission de savoir aussi à travers l'apprentissage. Eric et Eddy sont mes invités pour parler de boucherie et de charcuterie, de commerce en général. Bougez pas.
Comme un vendredi noir où j'ai tout oublié et le des nuits sur un toit à regarder les orages et en courant les dangers des éclairs sur ton visage et les étoiles près de toi et nos rêves imparfaits le temps d'un été français où on aurait tout.
Vous êtes dans Job sur Bac FM, je reçois Eddy et Eric dans ce premier numéro de Portrait d'artisan. Focus aujourd'hui sur la profession de boucher charcutier et je vous ai fait venir aussi tous les deux, car vos entreprises sont relativement différentes. Vous comptez combien de salariés, Eric ?
16.
16 salariés à l'heure actuelle ?
Oui.
Et vous avez, Eddy, vous ?
2.
2 salariés. C'est dans la taille différente, certes, mais surtout aussi dans la zone géographique où vous exercez. Eric, vous êtes dans une moyenne ville, une ville médiane, Nevers. C'est une moyenne ville. Et vous, Eddy, vous êtes en campagne. Qu'est-ce qui prime quand on travaille dans un village comme vous, Eddy ?
De connaître ses clients, de leur apporter de la confiance et de la qualité.
Vous savez un petit peu tous les jours quel client va venir avec les habitudes et avec
ouais,
ce qu'il préfère avoir.
On peut appeler les gens par leur nom, leur prénom. Ouais. Voilà, on les connaît. Et puis on a aussi une clientèle touristique, donc c'est aussi différent. C'est une autre approche.
Alors justement, cette clientèle touristique qui vient aussi, des fois un petit peu comme au musée, voir des choses qu'elle peut pas forcément voir ailleurs. Comment on s'adresse à elle ?
Eh ben, on essaye de les conseiller au mieux, qu'ils prennent confiance en rentrant dans notre boutique par nos conseils, notre métier, notre savoir-faire. Voilà, on vend notre savoir-faire.
Eric, votre rapport avec la clientèle est peut-être différent que celui d'Eddy ?
Non, non
vous
c'est le même.
Vous avez ce même aspect de commerce de village, alors, de proximité.
Bien sûr, non, mais exactement le même. Pour alors d'abord je tiens à dire que la qualité d'une entreprise elle se fait pas au nombre de salariés ni au chiffre d'affaires, c'est son professionnalisme qui fait la qualité de l'entreprise pour laquelle enfin dans laquelle on vit, dans la celle qu'on a créée. Donc qu'on soit 2 4 10 ou 26, moi je connais des entreprises aujourd'hui à plus de 50 salariés et ils ont une fibre artisanale extraordinaire.
Ouais,
donc,
bien
pour
sûr,
le coup
bien
le
sûr.
Le nombre n'est pas important. Le rapport aux clients pour moi comme pour Eddy c'est le même hein, clairement, sauf que la seule différence on va dire c'est que Eddy table plutôt sur un nombre, enfin sur un nombre de clients ou des clients qu'il connaît mieux, alors que moi je vais en avoir forcément un peu plus, dont dedans des clients qui sont pas des clients qui sont fidèles, contrairement à Eddy qui va avoir une clientèle fidèle. Moi j'ai des clients fidèles, j'ai un socle comme lui de clients fidèles, donc où on fait exactement la même chose, des clients que je connais, je connais les enfants, on a marié, on les a mariés, enfin voilà, donc on est, c'est ça qui fait la qualité de l'artisanat et puis qui fait le cœur de notre métier, c'est de connaître ses clients.
Et parce que je rappelle que vous êtes traiteur aussi à côté de vos activités, c'est une forme de communication aussi d'apporter votre savoir-faire pour des grands nombres, des banquets et des fois des personnes qui vous connaissent pas forcément et qui retiennent votre nom.
Oui, c'est bah le traiteur, c'est aussi un moment où je vous dis on marie les enfants de nos clients, donc ça c'est important, c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant humainement, je parle. Et puis derrière, quand on fait un traiteur ou on fait un traiteur de 50, 100, 200, peu importe, du nombre de personnes, eh ben si on a été bon et qu'on arrive à ramener des clients à la boutique, on a bien travaillé.
Votre principale concurrence, c'est les grandes surfaces ?
Les grandes surfaces maintenant, la vente directe, la vente à la ferme, c'est la nouvelle mode, la vente à la ferme. C'est
quelque chose qui n'existait pas forcément avant ou qui était peut-être moins démocratisé.
Ouais, il y a 30 ans, ça n'existait pas. Tout doucement, on a incité les éleveurs à le faire, à se diversifier. Après, qualitativement, je suis pas convaincu que le consommateur soit gagnant.
Nos concurrents principaux aujourd'hui, je dirais, en tout cas pour moi, c'est les magasins spécialisés, type Grand Frais.
C'est les grandes surfaces, ouais, c'est ça. Ouais.
Alors c'est pas les grandes surfaces, c'est la grande surface, c'est Leclerc, Carrefour, Inter et les autres. C'est pas vraiment des concurrents. On fait pas forcément le même métier. Voilà, les gens achètent la viande par praticité parce qu'ils achètent la lessive, donc en même temps ils achètent la viande. Donc c'est plus simple dans le fait aujourd'hui de gagner du temps. Voilà, je dirais que aujourd'hui il y a aussi une part de vente internet qui est de plus en plus importante, c'est-à-dire on a cette vente aujourd'hui. Le circuit direct est un circuit qui est comme la grande distribution, qui souffre, hein, parce qu'au début, quand ils étaient pas nombreux, ils faisaient du chiffre. Aujourd'hui, ils sont nombreux à le faire. Donc, plus vous êtes nombreux, le gâteau est toujours le même. Je rappelle que le nombre d'habitants de la Nièvre diminue depuis ces 25 dernières années et que c'est pas prévu de s'arrêter tout de suite. Donc, pour le coup, ça veut dire que le gâteau devient de moins en moins gros. Et comme on est de plus en plus à manger autour du gâteau, forcément, les parts deviennent plus petites. Sauf que nous, c'est ce que je dis souvent à nos collègues agriculteurs, nous, on a un gros avantage sur eux, c'est qu'on a l'habitude de remettre notre métier en question depuis longtemps, hein. C'est pas d'aujourd'hui, puis ça va continuer, parce qu'on n'a pas l'intention de baisser pavillon tout de suite. Et par contre, aujourd'hui, nous, on est, ce qui fait qu'aujourd'hui on survit dans nos activités et qu'on vit au-delà de survivre, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, je suis boucher, alors moi et les autres, hein, peu importe, boucher, charcutier, traiteur, restaurateur. Hein, dans le temps, si vous avez quelques années en arrière, vous aviez le boucher,
le charcutier,
ouais. Le volailler,
chacun
le tripier,
avait sa spécialité. Ouais.
Exactement. Et aujourd'hui, nous, on est multi-casquettes. Donc, et je dis à nos amis aujourd'hui agriculteurs, ok les gars, vous voulez faire le métier de boucher, moi j'y vois pas d'inconvénient, n'oubliez pas de former les apprentis qui couperont votre viande demain. Parce que quand vous aurez plus les artisans qui forment aujourd'hui 80% des apprentis, qui va vous couper la viande ?
Ouais, le savoir artisanal est propre à chacun dans sa spécificité.
Moi, je ne fais pas pousser du blé et j'élève pas des vaches. Par contre, je sais les mettre en valeur. Et est-ce que nos amis agriculteurs savent le faire ? Je pose la question.
On comprend tout à fait cette revendication. Je pense que vous partagez, Eddy. Il y a une autre revendication aussi sur laquelle j'aimerais venir. On a parlé tout à l'heure de la crise du pouvoir d'achat de la clientèle avec cette nouvelle forme de consommation. J'aimerais bien qu'on revienne aussi sur une autre crise qui vous touche, vous. Alors, on parle beaucoup des boulangers, mais on peut parler aussi de tous les commerçants et tous les artisans qui nous écoutent et qui vivent des moments qui sont pas forcément très simples en ce moment. C'est la crise énergétique. Eric, je crois que vous avez une anecdote aussi à nous raconter sur ça. Comment ça a impacté votre entreprise, cette augmentation de l'énergie?
Ah ben pour l'instant, on attend concrètement l'augmentation du courant, parce moi je l'ai encore pas subi.
Le prix du kilowattheure
pour l'instant.
Pour l'instant,
je l'ai encore pas subi. On est dans l'attente. Après, on va essayer de faire face, comme on a fait face à d'autres choses. Au jour d'aujourd'hui, j'ai pas encore subi cette hausse, donc je peux difficilement en parler.
D'accord.
Moi, je la connais bien.
Oui, si j'ai cru comprendre.
Alors,
vous nous écoutez, Eric devient tout rouge.
Non, parce que j'ai chaud, il fait trop chaud. Mais c'est tout simple. Aujourd'hui, il y a deux types de contrats très importants à connaître qui sont, tout le monde ne comprendra pas forcément, mais moins de 36 kilos, plus de 36 kilos. Quand on est en dessous de 36 kilos ou jusqu'à 36 kilos, des compteurs à 36 kilos, aujourd'hui, vous êtes protégé par le tarif de réglementé, le TRV, le tarif de l'État, aujourd'hui, qui vous garantit un prix bloqué. Et donc, dans ces cas-là, tout va bien, puisque les prix sont bloqués par l'État. C'est le cas pour Eddy, hein, parce qu'aujourd'hui, il est en dessous de 36 kilos, donc tout va bien dans le meilleur des mondes, pour l'instant. Après, ceux qui sont en 36 kilos, dont je fais partie, bien entendu, eux, ils sont sur l'offre de marché, donc ils n'ont aucune idée du prix qu'ils vont payer à la fin de leur contrat. Donc moi, mon contrat, la fin de mon contrat, c'est 10 novembre 2023. Ok, donc entre-temps, j'ai pris la première inflation qui est celle du gaz, puisque mon contrat finissait en octobre 2022.
Pour avoir une idée concrète pour les auditeurs qui nous écoutent, au niveau du prix, ça concerne quoi en changement ?
Eh bien, en gaz, au mois d'octobre, j'ai pris 400% d'augmentation.
Ce qui représente ?
x4, donc je suis passé de 1 600 à 8 000 euros par an.
D'accord.
Voilà, donc c'est facile. Ça, c'est la première hausse. La hausse de l'électricité. Donc, je suis passé d'une consommation, d'un montant de consommation annuelle de 8 800 € à 28 000 € en 2022. Cette année, je devrais être sur, avec les cours qui continuent d'augmenter, entre 32 000 et 34 000 € par an. Et si rien n'est fait par l'État avant novembre 2023, je passerai à 55 000 € par an.
Qu'est-ce que vous revendiquez? Les mêmes demandes que les boulangers qu'on peut entendre sur les grandes chaînes, par exemple?
Nous, on l'a dit depuis, on a rencontré les députés, les ministres, le président, le premier ministre, le ministre de l'économie. C'est simple. Nous, on demande simple, on veut pas de primes, on veut pas d'aide, on en a pas, c'est pas notre métier, on n'en veut pas. Pour le coup, ce qu'on veut, c'est un prix qui soit réglementé à l'identique pour tout le monde. C'est-à-dire, si aujourd'hui, les gens, ou les entreprises qui sont jusqu'à 36 kilos payent 15 ou 16 centimes du kilowattheure, pourquoi ceux qui sont au-dessus paieraient plus cher? En général, on nous a toujours expliqué ces dernières années que quand on achetait plus, on payait moins. Si vous vous rappelez, la concurrence, c'est ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'achète une palette de coca, je paye un prix. Si j'achète un camion, je paye moins cher. Et nous, on consomme plus d'électricité et on paye plus cher. C'est quand même vachement bizarre comme truc. Donc nous, notre revendication est assez simple. Que tout le monde soit au même tarif.
Demander des revendications, c'est le seul moyen que vous avez pour contrer cette hausse.
C'est-à-dire que si l'État ne nous entend pas, on va faire ce qui se passe chez les boulangers et qui se passe chez les bouchers, on va fermer les portes. Donc, vous allez avoir de plus en plus de chômage qui va augmenter. Et aujourd'hui, c'est pas ce qu'on cherche.
C'est quelque chose dont vous avez peur à l'avenir?
Non, j'ai pas peur. C'est une certitude.
Ça commencera par du licenciement et ça.
C'est déjà fait. Moi, j'ai licencié. L'augmentation du gaz et de l'électricité chez moi, ça a été 2 salariés licenciés.
Voilà. Qui ont mis donc 2 personnes sans emploi.
Exactement.
Qui l'avaient avant. On comprend évidemment ce que vous dites et on soutient évidemment aussi tous les autres commerçants, tous les autres artisans, soit les fleuristes, les coiffeurs, que j'aurai l'occasion de recevoir et je leur poserai évidemment cette même question parce que on parle beaucoup des boulangers mais tous les métiers de bouche évidemment ont des frigos, ont des fours,
les restaurateurs.
Et ont besoin, les restaurateurs, tout ça, ils connaissent aussi ce problème et c'est important d'avoir aussi la parole de tous. On va parler de l'avenir aussi rapidement, on va finir après avec la formation des apprentis, mais l'avenir du commerce, des petits commerçants, vous la voyez comment? On parle beaucoup de la mort des petits commerces, j'espère que c'est faux, mais comment vous le voyez?
Le changement, peut-être le changement simplement, la différence de faire du commerce autrement, voilà. Après, des petits commerces comme nous, on a connu, ce sera différent, voilà. Ça se fera autrement, mais pas effectivement, peut-être pas comme une boutique. Il va falloir peut-être plusieurs choses. Un site internet, une boutique aussi.
La manière de se vendre.
Voilà. Une différence de se vendre, voilà.
Est-ce que dans un petit village aussi comme le vôtre, c'est important de travailler en lien avec tous les autres commerçants du village? Alors quand je dis tous les autres, il n'y en a pas à l'appel, mais est-ce que c'est important aussi de travailler en symbiose avec les autres commerçants?
Ah mais bien sûr, on est un groupe. On est un groupe, si demain il y en a un qui ferme, c'est le voisin qui en subit aussi les conséquences. On va dans notre petit village, on va chez le boucher, on va chez le fleuriste, on va chez le boulanger, on va chez le fromager, on fait tous les commerces. S'il y en a un qui ferme, du coup ça fait moins d'offres et les gens se dirigent ailleurs ou autrement.
C'est la même chose en ville, hein. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on a dans des quartiers, il suffit pas que ton commerce fonctionne bien si les autres à côté se portent mal. Non. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un pôle d'attractivité, effectivement, c'est un boucher, un boulanger, un fleuriste, un coiffeur. Voilà, c'est ce groupe qui fait venir les gens. Je peux en parler plus facilement. Au 13e de ligne, quand je me suis installé en 2011, on n'était pas très nombreux, pour le coup. Le quartier a recommencé à se développer. Cube a été créé, donc on a amené du travail, on a amené des gens, donc ça crée du volume et ça crée du commerce. Si mon commerce s'est développé, c'est aussi parce que mon quartier s'est développé et que j'ai des collègues qui se sont installés et qui fonctionnent bien. Le boulanger marche très bien, il y a 2 coiffeurs qui tournent très bien.
Il y a un nouveau bar aussi, il y a au sport.
Il y a au sport qui tourne très très bien, oui, tout à fait. Donc voilà, on a un volume de chiffre d'affaires qui est exactement le même principe que dans une commune. rurale aujourd'hui, on a ce besoin d'avoir des commerçants qui vont bien autour de soi.
Et ça passe par la présence aussi de jeunes ou moins jeunes actifs sur ce quartier aussi.
Évidemment.
On va terminer cet entretien avec, alors je pense aux jeunes qui nous écoutent aussi et qui aimeraient faire de la boucherie, charcuterie, traiteur, peut-être restaurateur aussi, leur métier. Est-ce que vous prenez, vous, des apprentis au sein de votre entreprise ?
J'en prends plus parce que j'ai pas d'offre.
D'accord.
Voilà.
Alors il y a une vraie pénurie d'apprentis. En France, il y a une pénurie sur ce domaine-là. Donc vous ne pouvez, vous, par exemple, Eddy, pas en prendre parce qu'il n'y a pas d'offre. Mais à l'avenir, si quelqu'un est intéressé pour
quelqu'un
intégrer...
quelqu'un se présente et qu'il est motivé, pourquoi pas
Oui, voilà. La motivation prime aussi, quand même,
mais
évidemment.
C'est déjà, avant toute chose, pour apprendre un métier, il faut être motivé. Quoi.
Voilà. Ouais, les mains dans les poches, ça vous énerve.
Ah, c'est compliqué.
Ouais, bien sûr, on prend des apprentis, oui, tout à fait. Moi, oui. Je prends des apprentis... parce qu'effectivement, en ville, c'est plus facile, les parents sont pas très loin.
Vous êtes peut-être en partenariat avec une école ?
Oui, je siège au CFA, donc pour le coup, là, j'ai, mais malgré tout, j'ai des jeunes qui viennent se présenter naturellement, mais parce que effectivement, on est dans une ville où les moyens de locomotion sont faciles, il y a un peu de bus, c'est pas parfait, il y a un peu de bus, il y a un peu de train, c'est le problème de la campagne aujourd'hui, c'est pas que les jeunes veulent pas aller à la campagne, c'est qu'ils ont pas forcément les moyens de y aller. On parle beaucoup aujourd'hui de mobilité douce, train, métro, bus, sauf que dans les campagnes, t'as un train le matin, enfin non, t'as un bus le matin, un bus le soir, des fois même pas, pour le coup, donc c'est pas facile.
Ça n'existe plus.
Ben voilà, donc,
ça n'existe plus.
Voilà, c'est le problème, il est là, et le problème, il est dans les moyens de locomotion pour nos jeunes. Mais oui, moi, je prends des apprentis, j'en ai toujours, voilà, entre 2 et 4, ça dépend de, je prends pas des apprentis par défaut. Je prends des apprentis quand ils sont engagés et qui alors pour être apprenti chez moi, mais chez mes collègues c'est souvent aussi comme ça, on les prend en stage école, donc au stage de 3e entre autres, ou pendant les vacances scolaires, ça nous montre aussi l'engagement qu'ils ont, parce que quand ils sont en vacances scolaires, si ils sont d'accord pour faire des stages, bah qui sait qu'ils sont un peu engagés, donc pour le coup c'est une bonne chose. En même temps, ça leur fait un pied à l'étrier, ils essaient de travailler avec nous une semaine. Comme ça nous permet de voir si eux ils sont pas trompés sur le métier qu'ils voulaient faire, puisqu'ils l'ont déjà fait un petit peu, ils ont découvert comment ça fonctionnait, et puis sinon on est satisfait d'eux, bon, on les garde. Voilà, donc j'ai entre 2-4 apprentis par an, voilà. Et je voudrais dire que on en parlait tout à l'heure, mais pourquoi l'apprentissage aujourd'hui dans le métier est vital et pourquoi l'apprentissage chez nous est extrêmement intéressant, tout simplement parce que depuis maintenant 3-4 ans, on est revenu à un cursus d'excellence, qu'on soit bien clair. L'artisanat, c'est un cursus d'excellence. C'est pas une voie de garage, d'accord ? Donc, on leur propose aujourd'hui un parcours complet depuis maintenant 3-4 ans. Donc, CAP boucher, CAP charcutier, s'ils veulent, un brevet professionnel boucherie aujourd'hui. À la suite de ça, on leur propose de faire un BTS aujourd'hui. Et ceux qui sont très bons ont la possibilité de rebondir sur une licence aujourd'hui. Ça veut dire que...
Donc, il y a un vrai parcours sur plusieurs années.
7 ans. D'accord, on a un vrai parcours. L'avantage, c'est que quand on a un vrai parcours comme ça, on a une visibilité sur ce qui va se passer, premièrement. Et secondo, quand vous sortez avec un CAP bouché, que vous allez voir un banquier, bah, il vous dit que vous êtes bien mignon, mais quand vous aurez 10 ans d'expérience, vous reviendrez le voir. Par contre, quand vous allez voir aujourd'hui votre banquier avec un BTS ou une licence, autant vous dire que c'est pas très compliqué d'emprunter de l'argent. C'est assez facile. Voilà, parce que il y a aussi un parcours qui fait qu'il y a un engagement des connaissances, des compétences, métiers, mais aussi... ce qui est important aujourd'hui, c'est que il suffit pas d'être un bon boucher pour être un bon artisan. Il faut aujourd'hui avoir une autre panoplie d'autres cordes à son arc, qui sont celles de la gestion, donc humaine et financière aujourd'hui, et puis c'est connaître le marketing, savoir se vendre, on en parlait tout à l'heure, mettre en avant son image,
tous les aspects du commerce qui peuvent rentrer en jeu au-delà
et qui sont aujourd'hui capital. Ouais.
Et c'est tout le savoir-faire que vous leur transmettez donc dans votre entreprise, que ce soit vous, Eric, ou vous, Eddy, en tant qu'artisan boucher, charcutier, traiteur et récemment restaurateur pour vous, Eric. Je voudrais vous remercier d'être venu sur Bac FM, présenter votre métier, tous les aspects que ça engendrait. Et je pense que ça peut informer aussi beaucoup de jeunes qui nous écoutent, des futurs bouchers charcutiers, qui reprendront peut-être votre enseigne un jour.
Avec plaisir.
Merci beaucoup d'être venu sur Bac FM.
Merci de m'avoir accueilli.